Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast de Major Prépa en partenariat avec Audencia Business School. Je me trouve aujourd'hui avec Guillaume Toning. Guillaume Toning, bonjour. Guillaume Toning, vous êtes donc professeur de culture générale en deuxième année à Intégrale et vous êtes également l'auteur, vous avez co-écrit un ouvrage sur le désir à destination des étudiants de classe préparatoire économique. Pour ce second podcast avec vous, Guillaume Toning, nous allons parler de la pensée de Nietzsche et nous allons tenter de comprendre comment dépasser les ambiguïtés de la pensée de Nietzsche vis-à-vis du désir.
Alors Nietzsche est peut-être un auteur un peu particulier cette année pour réfléchir à la question du désir, dans la mesure où on en fait le plus souvent l'apologue du désir, comme si la philosophie nietzschéenne n'était qu'une apologie du désir. Il y a sans doute une raison à cela. La raison, c'est la critique nietzschéenne de l'ascétisme. C'est-à-dire qu'on a chez Nietzsche clairement une critique, d'une certaine critique du désir. Mais malgré tout, on ne doit pas perdre de vue que, d'une part, Nietzsche n'est pas un auteur du désir, et le désir occupe finalement dans son œuvre une place qui est une place relativement secondaire, n'occupe pas la place qu'occuperait par exemple l'amour, les passions, les instincts, etc., et encore moins la volonté. Et puis, deuxièmement, il n'est certainement pas question chez Nietzsche, comme on peut peut-être le penser en allant un peu vite, il n'est certainement pas question d'un abandon au désir. De telle sorte que la perspective nietzschéenne est bien davantage celle d'une maîtrise du désir ou d'un jeu réglé avec le désir que d'un strict abandon. Alors, est-ce que ça signifie que Nietzsche n'est pas d'intérêt pour nous cette année? Au contraire, ça va nous obliger à penser finalement un rapport subtil au désir, un rapport équilibré au désir. Et je choisirai pour construire la réflexion deux citations qui semblent brutalement contradictoires. C'est souvent le cas chez Nietzsche. La première nous dit ceci: je n'ai aucun désir. Et c'est Nietzsche qui parle dans Ichiomo, il parle de lui-même. « Je n'ai aucun désir. » Pour un apologue du désir, c'est quand même un peu rude. Et dans Zarathoustra, c'est Zarathoustra qui parle, ce n'est plus Nietzsche, mais c'est son porte-parole, voici ce qu'on peut lire. « Mon désir jaillit comme une source, mon désir veut élever la voix. » On est donc là dans une perspective qui est strictement contraire. Alors commençons par la première déclaration. Elle trouve place donc dans cet ouvrage supposément autobiographique qui est Ichiomo, autobiographie, bon, disons plutôt mise en scène philosophique de soi. Et Nietzsche interroge sa vie passée. Il déclare n'y trouver, dit-il, aucune trace de lutte, aucun effort pour contrarier, dit-il, ou refuser son destin. Je lis ce qu'il nous dit. Vouloir quelque chose, tendre à quelque chose, avoir en vue un but, un souhait, toute chose que je ne connais pas d'expérience. En cet instant même, je regarde mon avenir, un avenir sans bornes, comme on regarde une mer lisse. Aucun désir n'en rit de la surface. Je n'ai pas la moindre envie de voir quoi que ce soit devenir autre. Dans ce passage, je n'ai jamais eu aucun désir. Un petit peu plus loin. Dans ce passage, on a finalement le champ lexical du désir dans son entier. Hein, vouloir, tendre à quelque chose, souhaiter, poursuivre un but. Et tout ce champ lexical est renvoyé à la nudité. Tout ceci n'a absolument, nous dit-il, aucun sens. Nietzsche, finalement, fait de lui-même le portrait, son propre portrait en sage stoïcien. Il semble se camper en être sans désir, en être ignorant le désir. Le rapport au stoïcisme est du reste constant chez Nietzsche. Il passe souvent par l'évocation de ce qu'il nomme l'amor fati, hein, l'amour du fatum, l'amour du destin, qu'il reprend bien sûr au stoïcien. Dans la formulation nietzschéenne, cet amor fati renvoie à l'acquiescement au monde tel qu'il est, finalement. Le fait d'embrasser comme nécessaire et souhaitable tous les aspects de l'existence, y compris les plus difficiles ou les plus douloureux. De telle sorte que la nature forte, nous dit Nietzsche, est une nature qui approuve toute chose, qui embrasse toute chose d'un oui aveugle. Et c'est là le point central, la nature forte est celle qui ne veut pas que les choses soient autrement, qui ne désire pas, très littéralement, que les choses soient autres qu'elles ne sont. Et à ce titre, le sage peut nous apparaître comme étant, comme par-delà le désir, puisqu'il ignore, à la différence des natures faibles, ce désir qui consisterait à souhaiter que les choses ne soient pas ce qu'elles sont. Alors, pour comprendre exactement comment les choses se déploient, analysons une seconde le mécanisme du désir. Que se passe-t-il lorsque nous désirons, lorsque je désire quelque chose, lorsque je veux quelque chose? La critique de la volonté, la notion de volonté, est très fameuse. Celle que Nietzsche donne, par exemple, dans « Par-delà, bien et mal », au paragraphe 19. Il dit ceci. « La volonté est quelque chose de complexe, dont l'unité est purement verbale. » Ce qui signifie que sous ce nom unique, volonté, se loge une multiplicité de processus, des sentiments, des pensées, des passions, en particulier la passion du commandement. Dans tout acte volontaire, dit-il, on a toujours affaire à un ordre donné et reçu, ordre qui s'adresse à un édifice collectif d'âmes multiples. Bref, lorsque je veux, lorsque je désire, je ne fais en réalité que passer un ordre à quelque chose qui en moi obéit. Qui en moi obéit, c'est-à-dire les âmes multiples, c'est-à-dire les instincts. Que signifie maintenant « je n'ai aucun désir » ? « Je n'ai aucun désir » signifie « je me maîtrise », « je n'éprouve aucun tiraillement interne », « je n'ai aucun désir », ça renvoie finalement à cet état de parfaite domination des passions, des pulsions, des instincts, et en particulier de parfaite domination des pulsions qui commandent sur celles qui obéissent. Et on retrouve donc cette figure du sage qui ne désire rien. En lui, aucune pulsion ne se rebelle, aucune pulsion ne réclame que les choses ne soient autres qu'elles ne sont. Et on retrouve le grand oui d'acquiescement de la mort fatigue qu'on évoquait tout à l'heure. Mais se situer comme par-delà le désir, ça ne signifie pas chez Nietzsche, et c'est sans doute la partie la mieux connue du nietzschéisme, ça ne signifie pas épouser une morale ascétique. Bon. Je dis quelques mots rapidement de la critique nietzschéenne de cette morale ascétique, qui est, d'un certain point de vue, une morale de la critique du désir. Le point central, peut-être, ou l'endroit où les choses sont dites de la manière la plus synthétique, c'est le crépuscule des idoles, dans le petit passage qui s'appelle « La morale, une antinature ». Voici rapidement ce que nous dit Nietzsche, j'enlève toute une partie de sa réflexion, la dimension historique, bien. Il nous dit ceci, « Désir et passion peuvent être nocifs, peuvent nous avilir, et de ceci, nul ne disconvient, pas même Nietzsche, que le désir puisse nous avilir sous certaines de ses formes, c'est une évidence. » Mais dit-il, est-ce que c'est une raison suffisante pour vouloir éradiquer le désir, éradiquer tout désir ? C'est là, nous dit-il, un remède qui est en réalité un remède primitif. Et ce remède, il trahit l'incapacité de faire autrement, l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons de maîtriser notre désir ou de le spiritualiser, d'en prendre la mesure. Nous n'admirons plus, dit-il, les dentistes qui arrachent les dents afin qu'elles ne fassent plus mal. De la même manière, il ne convient pas d'admirer les médecins de l'âme qui nous enjoignent d'arracher nos désirs. On a là un castratisme, dit-il, barbare, une propension à l'amputation, à la diminution de soi, qui est, là encore, simplement le symptôme d'un état de débilité physiologique, le symptôme d'une faiblesse. De telle sorte que finalement, ce qui incrimine le désir, sans nuance, ce qui nous engage à ne pas désirer, trahissent ni plus ni moins que leur propre dégénérescence. Et Nietzsche ajoute d'ailleurs leur propre incapacité à maîtriser leur vie pulsionnelle, à maîtriser leur propre démon. Donc, nous n'avons ni une apologie du désir, on l'a vu dans notre premier temps, ni, et encore moins, une haine du désir. Il nous reste à comprendre notre deuxième phrase, rapidement, la deuxième phrase donnée en début d'intervention, celle de Zarathoustra qui disait « Mon désir jaillit comme une source, mon désir veut élever la voix ». Voici ce qui nous est dit dans « Ainsi parlait Zarathoustra ». Il y a en moi quelque chose d'inapaisé et d'inapaisable qui veut élever la voix. Il y a en moi un désir d'amour qui parle lui-même le langage de l'amour. Il fait nuit. Voici que mon désir jaillit comme une source. Mon désir veut élever la voix. » Bien. Là encore, je renonce à rendre compte de l'ensemble des choses qui se trouvent dans cette citation, mais ce qui nous intéresse, c'est que Zarathoustra est ici présenté, non pas du tout comme le sage qu'on a décrit en début d'intervention, mais comme un être de passion, dont l'âme, précisément, veut accéder au désir. Zarathoustra, c'est celui qui va s'efforcer de désirer, c'est-à-dire celui qui va essayer de vaincre ce qui est appelé dans le Zarathoustra la grande lassitude. La grande lassitude, ça va désigner, finalement, une maladie qui est une maladie de l'époque, une maladie du XIXe siècle qui se rapproche de la question du nihilisme, mais en tout cas la maladie, disons, de ceux qui ne désirent plus rien, qui sont dans l'incapacité de désirer quoi que ce soit et de désirer vraiment. De telle sorte qu'avec Zarathoustra, le désir va nous apparaître comme une conquête, comme un mouvement de conquête. Il va s'agir de gagner le désir par-delà la lassitude, par-delà la maladie. Il va s'agir donc de refuser cette sorte d'apathie qui enveloppe une incapacité à vouloir quoi que ce soit. Ne plus vouloir et ne plus estimer et ne plus créer, ah, que cette grande lassitude continuellement, loin de moi, reste. Même dans le connaître, je ne sens que le plaisir de mon vouloir lorsqu'il procrée et qu'il devient, mais vers l'homme à nouveau me pousse continuellement ma brûlante volonté créatrice, dit Zarathoustra. De telle sorte que la volonté créatrice, ici, est dite brûlante, ardente, désirante. Le nom de cette volonté procréatrice qui est brûlante, ardente, désirante, c'est bien sûr la volonté de puissance, qui est le concept central du nietzschéisme. Pour clore, revenons sur cette question de la volonté de puissance, sur le concept de volonté de puissance. Nietzsche la présente, chacun le sait, comme son hypothèse fondamentale, comme l'hypothèse qu'il mobilise pour rendre compte du réel. Elle est l'essence la plus intime de l'être, nous dit-il par exemple. Les êtres vivants, tous les êtres vivants en particulier, sont volonté de puissance en tant que sont animés par une volonté de croître, d'accaparer, de dominer. Vouloir devenir maître, nous dit Nietzsche, vouloir devenir plus, vouloir devenir plus fort. Hein. La loi de la volonté de puissance nous engage à penser le désir au cœur de l'être même, au cœur de l'être vivant en particulier, mais au cœur de l'être même. Alors, que tout soit volonté de puissance ne signifie pas, bien sûr, que tous les désirs s'équivalent. Le désir des forts, on l'a vu, n'est pas de même nature que le désir des faibles. Et le désir que Nietzsche ignore, pour synthétiser ce qu'on a posé, qu'est-il au juste? Il est précisément ce qu'on pourrait appeler le désir des faibles ou un désir faible, c'est-à-dire un désir qui serait incapable d'accepter ce qui est, un désir qui serait un désir négatif, un désir qui refuserait le monde. Et le nouveau désir, dont il va s'agir de faire l'apologie, ou la promotion, est solidaire évidemment de l'affirmation. C'est ce grand oui qui est dit à la vie elle-même, à la vie jugée désirable comme telle. Non parce qu'elle vaudrait frileusement d'être conservée, hein, mais parce que rien en elle ne mérite d'être nié, pas même la peine ou la souffrance. Désirer, affirmer, accueillir désigne donc finalement un même mouvement que Zarathoustra exprime dans son appel à l'éternel retour. Était-ce cela la vie? En avant, encore une fois. Et nous sommes encore ici, à nouveau, conduits aux portes du désir le plus haut, qui sera chez Nietzsche, le désir de l'éternel retour.